le monde au féminin. Le monde au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La Somalie a utilisé des tests ADN pour faire condamner à mort trois hommes ayant violé et tué une enfant de 12 ans. En février 2018, Aïcha Ilyas Adan avait été violée par un gang torturé à mort et son corps avait été jeté devant la maison de ses parents. Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Des échantillons d'ADN ont été prélevés sur ces suspects stockés dans le laboratoire médico-légal du Puntland, n'étant pas encore équipés pour analyser ce matériel. Donc ils ont été envoyés au Kenya et les analyses ont permis d'impliquer trois des suspects dans le crime. La police prend rarement ces dossiers au sérieux, bien que l'État du Puntland ait promulgué en 2016 une loi imposant des peines sévères pour les crimes sexuels. Au plan national, Mogadiscio travaille actuellement à l'adoption de premières lois sur le viol en Somalie. Le 12 mai dernier également, sur un autre continent, des milliers de personnes ont participé à une marche silencieuse à Anvers, en Belgique, à la mémoire d'une étudiante assassinée par un homme condamné pour viol mais laissé en liberté. L'assassin de Julie Van Espen, 23 ans, est un homme de 39 ans qui avait été condamné à 4 ans de prison pour viol en 2017, mais il avait été laissé libre en attente de son procès en appel. Selon certaines femmes africaines chefs d'entreprise, peu de progrès ont été réalisés dans l'autonomisation des femmes en plusieurs décennies. L'ivoirienne Patricia Zundi emploie 60 personnes dans sa société de transfert d'argent spécialisée pour les agriculteurs et travailleurs du secteur informel, Quick Cash, créée il y a 10 ans. Elle a créé depuis deux autres sociétés, mais les banques refusent toujours de lui accorder des crédits. Le problème, c'est qu'on limite les femmes au microfinancement, regrette Madame Zundi. La Nigérienne Nafisa Amidou emploie quant à elle 10 personnes dans son entreprise de production d'aliments pour bétail. C'est la seule femme à la tête d'une entreprise dans ce secteur au Niger et aucune banque n'a accepté de la financer. Ces femmes d'affaires, parmi d'autres, avaient témoigné au sommet de l'initiative de financement en faveur des femmes en avril dernier à Abidjan. Les entreprises dirigées ou détenues par des femmes dans les pays en développement font face à un déficit de crédit d'environ 1500 milliards de dollars. Une triste réalité dévoilée par la Société financière internationale.
Parole de femme.
Aminata Sidi Bé a fondé une famille en Côte d'Ivoire en 1960, alors que le pays gagnait son indépendance. 59 ans plus tard, elle et les membres de sa famille ne sont toujours pas reconnus comme citoyens ivoiriens. Comme des milliers d'autres, ils se heurtent à des obstacles juridiques qui les exposent au risque d'apatridie. Arzuma Compaoré nous en dit plus.
Aminata et sa famille sont des Fula, une communauté traditionnellement nomade que l'on retrouve dans plus de 10 pays d'Afrique occidentale et centrale. Depuis son mariage, Aminata, 74 ans environ, vit à Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais les autorités ivoiriennes considèrent que la matriarche et sa famille de 45 membres sont originaires du Burkina Faso, bien que ses enfants et sa famille élargie soient nés en Côte d'Ivoire. Et après si longtemps, le Burkina Faso non plus n'est pas prêt à les reprendre.
Dieu m'est témoin, mes parents sont venus ici. Je suis née ici, ils sont morts et m'ont laissée ici. Je me suis mariée ici. J'ai eu des enfants et mes enfants en ont eu aussi. Si les gens disent que je ne suis pas d'ici, que puis-je dire ?
Dans le monde entier, des millions de personnes sont sans nationalité. Toute leur vie, elles sont confrontées à des inégalités et à des entraves à leurs droits fondamentaux tels que l'éducation, les soins de santé, l'emploi et la libre circulation. Comme beaucoup de Peuls, la famille Tal élève du bétail, mais ne peut posséder des terres. Leur droit de pâturage provient généralement d'accords privés conclus avec les propriétaires terriens d'origine, ce qui ne leur confère pas de propriété foncière légale. Ils ne peuvent non plus postuler à des emplois formels, ouvrir des comptes bancaires ou obtenir un permis de conduire. Bien que nés en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas droit à la citoyenneté. La citoyenneté n'est conférée qu'à ceux qui sont de parents ivoiriens. Seydou Tal est le fils d'Aminata, il est également un apatride.
C'est ici que j'habite. Si vous n'avez pas de documents légaux, vous êtes exclu de beaucoup d'opportunités. Si vous n'avez pas de papiers, vous n'êtes personne.
Au fil des décennies, la migration et les conflits civils ont forcé les populations à se déplacer à travers l'Afrique de l'Ouest. Le HCR travaille avec les autorités ivoiriennes pour éliminer l'apatridie, mais des milliers de personnes demeurent dans un flou administratif. Le processus de naturalisation en Côte d'Ivoire est complexe, même pour ceux qui possèdent un acte de naissance. Pour ceux qui n'ont pas fait d'études et qui ne savent pas lire, cela rend le processus judiciaire encore plus difficile. Chez les Tal, certains des plus jeunes de la grande famille vont à l'école primaire et rêvent d'une carrière dans le secteur juridique, mais ils auront besoin d'un diplôme universitaire pour atteindre leurs objectifs.
Nous voulons que nos enfants aient leurs papiers pour aller plus loin dans leurs études. C'est très important pour nous.
Après avoir vécu en tant qu'étranger pendant 4 générations, les Tal placent aujourd'hui tous leurs espoirs dans la génération à venir.
Dans le nord-est du Nigeria, près de 900 enfants des milices anti-djihadistes, dont une centaine de filles, ont été démobilisés début mai à Maïdougouri, dans l'état du Borno. Depuis septembre 2017, lorsque la milice d'autodéfense a signé un accord s'engageant à prendre des mesures contre l'utilisation d'enfants dans les troupes, 1727 enfants et adolescents ont été libérés et il n'y a pas eu de nouveaux recrutements, affirme Mohamed Fall, représentant de l'UNICEF pour le Nigeria, ajoutant toutefois qu'ils sont encore plusieurs milliers à être libérés ou démobilisés.
Si jeunesse pouvait.
Une voiture made in Cameroun a vu le jour. C'est l'œuvre du jeune mécanicien Cédric Simène qu'il a présenté à Bafoussam dans l'ouest du pays en mars 2019. Ce véhicule tout-terrain fabriqué à partir de pièces recyclées est une belle vitrine pour promouvoir le génie de la jeunesse africaine en matière de créativité. À n'en pas douter, un génie dans lequel investir. Blanche Sanou nous en dit plus sur l'inventeur et son superbe véhicule qui ne manque pas d'attirer l'attention du public.
Cédric ne passe pas inaperçu lorsqu'il parcourt les rues de Bafoussam au volant de sa pick-up. Fabriqué à partir de pièces recyclées, le petit camion bleu attire beaucoup de regards, comme le témoigne Léopold Kamdem, un chauffeur de taxi.
Étant chauffeur, j'ai contrôlé ça, tous les accessoires qu'une voiture doit avoir. Je suis assis confortablement, une voiture de 2 places, et ça, tous les accessoires. Je suis même surpris d'arriver dedans, je constate que le tableau de bord fonctionne. Comme toutes les voitures, donc vraiment, c'est un génie.
Un génie pour certains, Cédric est avant tout débrouillard. Après avoir quitté l'école à 11 ans, il a appris la mécanique automobile dans l'atelier de son oncle, où il fabriquait des modèles réduits de voitures en bambou. Transformant cette passion d'enfance en réalité, il a consacré toutes ses économies à la création de ce véhicule écologique. Cédric Simène, mécanicien et inventeur de la voiture Made in Cameroun, se souvient encore de ses débuts.
J'ai payé du matériel avant de la transformer comme je veux. Et il y a aussi certaines pièces de récupération que j'ai achetées comme amortisseurs, pneus, moteurs et autres petites pièces. Mais déjà, la carrosserie et les essieux sont faits sur place.
La création de Cédric suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Il espère que cet intérêt l'aidera à développer et améliorer ses créations. Aladji Mohamed, un commerçant, plaide pour sa cause.
Et je vais profiter pour demander à l'État du Cameroun qu'on essaye de mettre ces personnes qui ont des idées un peu élevées dans de meilleures conditions pour qu'ils nous aident à produire des voitures comme ça pour aider les Camerounais ou le monde entier.
Cédric attend un partenariat avec le gouvernement camerounais. Mais déjà, il reçoit des commandes privées du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Selon la rumeur, ses prochains modèles pourraient être équipés de moteurs électriques, ce qui rendrait les petites voitures encore plus écologiques.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Selon l'ONU, la traite des êtres humains est la troisième forme de trafic la plus rémunératrice après le trafic de drogue et la contrefaçon, en générant un profit de 32 milliards de dollars par an aux réseaux criminels. Le nombre de personnes exploitées chaque année est estimé à 2,5 millions, principalement des femmes et des enfants. L'industrie de la traite des êtres humains est dominée par l'esclavage sexuel. Alors que ces victimes représentent 5% des personnes soumises à l'esclavage, leur exploitation constitue 50% de ces revenus illégaux. Le retour sur investissement pour les esclavagistes est aujourd'hui 30 fois plus élevé qu'au 18e et 19e siècle, a constaté Sidrar Kara, expert en esclavage à l'université Harvard dans le Massachusetts, ici aux États-Unis. Au Nigeria, une descente des services de sécurité dans une boîte de nuit a débouché sur l'arrestation de 30 danseuses nues le week-end du 11 mai. Ce type de danse est pratiqué dans plusieurs lieux de divertissement d'Abuja depuis un certain temps et les arrestations sont courantes. Une ONG affirme que les danseuses sont généralement arrêtées pour non-paiement de la somme versée quotidiennement à la police. Plus de précisions avec Gilbert Tamba.
Situé dans le district d'Outako à Abuja, le bâtiment de la très populaire boîte de nuit Karabilo devait au départ servir de clinique médicale. Mais le bâtiment a été par la suite reconverti en une boîte de nuit. Les multiples plaintes des habitants du quartier ont obligé l'administration d'Abuja à agir. Selon les autorités d'Abuja, Karabilo n'est pas le seul lieu où se déroulent de telles pratiques. Précision d'Hassan Aboubakar du département pour le contrôle et du développement au ministère en charge de la gestion de la capitale.
C'est juste l'une des boîtes où nous sommes allés. Il y a environ 15 de ces boîtes de nuit à Abuja où les femmes dansent nues. Nous avions procédé à l'arrestation de toutes les femmes et de tous les hommes qui étaient présents. Nous avons ramassé tout le monde dans la boîte et nous allons les traduire en justice.
Des enquêtes préliminaires ont montré que certaines de ces jeunes femmes danseuses sont de familles aisées et d'autres étaient mariées ayant des enfants. Nancy, âgée de 24 ans, est l'une des filles arrêtées. Elle justifie son action par le manque d'emploi au Nigeria.
Nous lançons un appel au secours, aux organisations des droits de l'homme et au gouvernement. Nous sommes des êtres humains comme tout le monde et en plus, il n'y a pas d'opportunité de travail au Nigeria. Nous restons à la maison tous les jours sans travail et même si vous demandez prétendez à devenir domestique, il n'y a personne pour vous donner du travail. Nous sommes fatigués, on ne trouve pas d'emploi, même avec nos certificats.
La présidente de l'Association des femmes travailleuses de sexe affirme que ces filles ont été arrêtées non pas pour leur acte comme le disent les autorités, mais pour non-paiement d'un montant fixé et qui doit être versé tous les matins à la police, et parle d'une complicité entre la police et les propriétaires de boîtes de nuit. Amakanara.
Cela arrive presque tous les jours. Certains hôtels qui acceptent des travailleuses du sexe versent un certain montant à la police tous les matins. Si les filles ne payent pas, ils viennent les arrêter. Donc c'est quelque chose qui arrive un jour sur deux.
Ce n'est pas la première fois que des descentes policières sont effectuées dans les boîtes de nuit comme Caramilo, résultant à des arrestations massives. Ces personnes sont souvent libérées après quelques jours de détention. En octobre 2017, la Cour de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait déjà condamné le gouvernement nigérian à payer 18 millions de naira, soit 45 000 euros de dommages et intérêts à trois femmes illégalement arrêtées, détenues et déclarées prostituées à Abuja par les mêmes services de sécurité. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Le Burkina Faso veut labelliser son pagne national, le Faso d'Anfani, qui est tissé avec des fils de coton, l'une des richesses agricoles du pays. Face à la contrefaçon et au risque d'appropriation, les autorités ont décidé de protéger des centaines de motifs de ce pagne, rendu populaire par Thomas Sankara. Lamine Traoré à Ouagadougou nous en dit plus sur cette initiative.
Un grand pas dans la protection de ce pagne emblématique du Burkina Faso. Dans quelques jours, le Burkina va labelliser son Faso d'Anfani. C'est ce qu'a promis le gouvernement. Ces derniers jours, une information a circulé selon laquelle une firme asiatique se serait appropriée le Faso d'Anfani. Faux, selon le CNPI, le Centre National de la Propriété Industrielle.
Nous pouvons rassurer les populations que le Faso d'Anfani n'a pas fait l'objet d'appropriation.
Mamadi Tassambedo, directeur général du CNPI.
Le ministère a un processus de labellisation qui suit son cours et qui va se parachever non seulement par la protection du Faso d'Anfani, mais également la protection des motifs du Faso d'Anfani, tant au niveau de l'espace Ouapéi que dans d'autres pays où il y a le risque de copie, d'imitation ou reproduction de ces motifs du Faso d'Anfani en tissu industriel.
Sur le marché, on trouve du Faso d'Anfani contrefait. Moustapha Tiendrebeogo est vendeur de Faso d'Anfani.
Le Faso d'Anfani se différencie de ceux-là venant extérieurement par le tissage déjà, parce que là, ceux-là importés, c'est du tissu. Et le Faso d'Anfani, c'est des fils, c'est carrément différent. Les motifs sont copiés du Faso d'Anfani, parce que là, on peut remarquer qu'il y a le gang, la pèlera.
Le ministère en charge de l'artisanat offre régulièrement du matériel aux nombreuses associations de tisseuses. Célestin Zungrana, directeur de la coordination et de la promotion à la Direction générale de l'artisanat, au ministère en charge de l'artisanat.
Nous sommes en tout cas dans une dynamique de vraiment de doter les associations du Burkina Faso en entier pour les permettre quand même de saisir les opportunités, de transformer notre coton d'abord, c'est très important, mais aussi de pouvoir avoir des ressources financières pour s'occuper de leur propre famille et bon, de créer de l'emploi également. Le pagne tissé, c'est le coton burkinabé. C'est les artisans du Burkina Faso, même les métiers à tisser sont faits par nos artisans, les soudeurs.
Germaine Compaoré est présidente d'une association de tisseuses de plus de 500 membres depuis une dizaine d'années. Selon elle, les tisseuses vivent de leur travail et la labellisation de ce pagne viendra soulager ces femmes.
On peut dire que ça va. Les femmes jouent un grand rôle dans les ménages.
Germaine Compaoré.
Beaucoup de nos membres, c'est avec le travail qu'elles font qu'elles arrivent à payer la scolarité de leurs enfants, à contribuer énormément au niveau des ménages. On veut protéger les motifs. Nous pensons que cela est un grand pas qui va sauvegarder notre patrimoine, le Faso d'Anfani.
Le gouvernement dit continuer à entreprendre des actions pour encourager au port du Faso d'Anfani. En 2017, un arrêté du Premier ministre alors encourageait les fonctionnaires à porter le Faso d'Anfani. Le processus de labellisation de ce pagne sera parachevé d'ici fin mai, avec le dévoilement du logotype du label Faso d'Anfani le 30 avril prochain, selon le gouvernement burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Thank you.
9 mai 2019, le Parlement de Guinée a modifié le code civil pour faire de la monogamie le régime général du mariage, sauf en cas d'accord explicite de la première épouse. Prenant le contre-pied d'un texte voté fin 2018, légalisant la polygamie, mais qu'avait rejeté le président Alpha Condé. En décembre, les députés, dont plusieurs sont polygames, avaient en effet largement adopté un texte dont l'article 281 affirmait que le mariage pouvait être conclu soit sous le régime de la monogamie, soit sous celui de la polygamie limitée à 4 femmes. Le texte disait aussi que, faute pour l'homme de souscrire à l'une des options, le mariage est présumé être placé sous le régime de la polygamie, laissant donc le dernier mot à l'époux. Mais le président Alpha Condé avait renvoyé ce texte au Parlement. En seconde lecture, 71 des 73 députés présents ont voté en faveur d'une nouvelle version qui affirme à présent que le mariage est soumis au régime de la monogamie pour tous les citoyens guinéens. Toutefois, le futur mari peut, au moment de la célébration du mariage, en présence de sa future épouse et avec l'accord explicite de celle-ci, déclarer qu'il opte pour la polygamie limitée à 2, 3 ou 4 femmes au maximum. À défaut, le mariage est placé de manière irrévocable sous le régime de la monogamie. Pour rappel, l'article 315 du premier code civil guinéen stipulait que, je cite, « la pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité guinéenne et demeure proscrite sur toute l'étendue du territoire de la République ». Et dans l'article suivant, la loi reconnaissait que les mariages polygames célébrés avant le 31 janvier 1968 restaient en vigueur. Cette loi qui interdisait la polygamie a été ignorée pendant 50 ans, à commencer par les hauts dirigeants. Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain LMF. Les joueuses de football professionnelles aux États-Unis ont dénoncé les faibles primes qui leur sont accordées et les conditions d'entraînement moins bonnes que celles des hommes, malgré un palmarès impressionnant, sans commune mesure avec les performances modestes des garçons en grande compétition. Les Américaines s'inspirent des Scandinaves, notamment des Danoises, qui ont fait grève en 2017, de même que les sélections féminines et masculines norvégiennes qui ont signé un accord instaurant l'égalité salariale. Pour y parvenir, la fédération locale a organisé un transfert vers la sélection féminine d'une partie des recettes de sponsoring récoltées pour l'équipe masculine. Quant aux joueuses en Italie, elles ne bénéficient pas du statut professionnel. Et sachez qu'en France, la joueuse la mieux payée et premier ballon d'or du football féminin, la Norvégienne Ada Egerberg de l'Olympique Lyonnais, perçoit un salaire record d'environ 400 000 euros contre 30 millions pour le Brésilien Neymar au PSG. Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.com/LMF pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête!